podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.
Salut tout le monde, c'est Nelton. Oui, c'est Nelton qui parle en premier. C'est un moment triste parce que Saphir Taider n'a pas marqué de but. Donc, vous entendez déjà le rire qui annonce quelque chose de différent. Sofiane n'a vraiment pas été capable de le prendre, celle-là. Un match sans but de Saphir Taider, il fallait absolument que je trouve quelqu'un d'autre pour le remplacer. Et je me suis retourné, oui, finalement, il est au Couscous Péri-Péri. Salut Julien.
Salut Nilton, un spécial pour le Doc Mayou, celle-là, je pense.
Oui, c'est vrai, tellement désiré par Doc Mayou, Dr. Foot.
Dr. Foot, whoops. Ouais, on a essayé de convaincre Sofiane de venir quand même, parce que Taider a quand même eu une passe décisive, mais il a dit non, c'est un but ou c'était rien.
C'est vrai, il y a une passe, il y a une sélection pour l'Algérie, il y a beaucoup discuté avec Dom Dwyer. Non, il manquait juste un but.
Ouais, exactement. Je sais pas si la petite Saphira a pu regarder le match, mais je pense que c'est elle qui prend trop de son temps en fin de semaine. Hein?
Ouais, mais ça va se replacer, Sofiane. Lâche pas, tu vas voir.
À un moment donné, pour toi.
Ces petites bêtes-là grandissent, puis ça devient indépendant, tu vas voir. Bon, ben, on passe à l'émission.
Yes, let's go.
Let's go.
MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial, on en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer.
Bonjour, bonjour, bienvenue à une édition spéciale de Couscous Péri-Péri, édition québécoise, sauce brune. On ne sait plus comment t'annoncer, Julien. Comment ça va?
Ça va super bien. On peut y aller avec la sauce brune. Là. Je pense qu'avec le temps, c'est devenu une marque déposée. Là, on remplace le couscous par un petit peu de sauce brune cette semaine.
C'est toujours un peu malaisant, mais bon, hein, si t'aimes ça, on va y aller comme ça. Alors, le match à Orlando, finalement, une belle victoire. On va quelques mots avant à nos commanditaires. On aimerait remercier nos commanditaires depuis toujours, la Forge du Malte, la microbrasserie de Trois-Rivières. Ils sont pas seulement situés à Trois-Rivières. Il y a plusieurs détaillants aussi à Montréal, autour de 70 détaillants où il y a leur bière disponible autour de Montréal. Il y a le salon de dégustation qui existe, bien sûr, à Trois-Rivières. Donc, si jamais vous faites un tour, c'est ouvert là-bas les week-ends. On aimerait aussi remercier notre commanditaire technologique Spreaker, qui est la plateforme qui pousse les casteurs vers le succès. Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics et depuis un seul endroit. On est depuis très peu dans ton podcast qui devrait bientôt renaître de ses cendres, n'est-ce pas?
Oui. Je travaille sur quelque chose justement avec le début de la saison de la Canadian Premier League bientôt. Cool. On va faire un petit spécial à ce niveau-là.
Donc, tous les podcasts, toutes les émissions sont de Cannes Football Club sont maintenant disponibles sur Spreaker.com et disponibles, bien sûr, dans vos différentes plateformes de podcasts. Et bien sûr, depuis la semaine prochaine, on est aussi disponible sur la grille horaire de Radio Média Plus et Sport en ligne. Que t'as quoi? Ça fait deux semaines que t'as ton topo le lundi midi avec Jean Corriveau, c'est ça?
Ouais, exactement. Là, j'ai fait deux interventions avec Jean, puis c'est toujours super le fun. Là, en fait, j'ai même pris l'habitude d'écouter l'émission au complet parce que on est habitué là à Montréal que ce soit souvent juste pour le hockey, mais là il a intégré le soccer puis il parle un peu de tous les sports. Là, fait que c'est super intéressant. Comme émission, je recommanderais aux auditeurs là, de jeter un petit coup d'œil.
Exact. Et moi, le mercredi midi, j'essaie de défaire tout ce que tu as dit deux jours avant.
Il ne nous met pas un jour après parce que ça serait trop contradictoire. Là.
C'est un choc un peu trop gros. Alors, juste pour revenir sur le match, la victoire de l'Impact de Montréal à Orlando, notre deuxième victoire à l'étranger. Hein, déjà 6 points sur 9 de possible.
C'est inespéré. Qu'est-ce
que le triomphe, hein, ouais. Alors, Orlando était annoncé comme un 3-5-2 qui a finalement été aligné plutôt en 4-3-3 ouais. avec Rowe dans les buts, Acosta à gauche, Asquith, O'Neill en défense centrale, Rowan à droite, un trio central avec Will Johnson qui est sorti rapidement. Mm-hmm. Je pense qu'une espèce de commotion hein, avec le choc avec Cabrera.
Ouais, vraiment, mais il y avait aussi, au début, je me demandais si c'était pas son ego qui était frappé un peu parce qu'il a carrément raté son attaque, puis il y avait Nani à côté qui semblait vouloir le tuer. Mais ouais, non, finalement, je pense que c'est la commotion là, qui était trop.
Ouais, bon, on va le savoir un peu plus. Espérons rien de grave pour Will Johnson. Ouais. Mendes et Mueller, ainsi que le trio, le petit triangle à l'attaque de Sacha Clijsten, Louis Money et Dom Dwyer, qui est maintenant... Il y a maintenant une place réservée avec ouais. les Jovinko, Bradley, Wondolowski. On est en train de les apprendre, hein, les nouveaux méchants de la MLS.
Ouais, je pense qu'on peut s'attendre à quelques bannières un peu insultantes envers Dwyer quand Orlando va venir à Montréal cet été. Ouais.
Alors que nous, notre 11 partant, un classique, avec Sagna à droite, Cabrera, Diallo en défense centrale, Lovitz devant Evan Bush, le milieu de terrain composé de Piet avec Tider à gauche, Azira à droite, Urruti comme, un attaquant, Pieti à gauche, et la petite surprise, pas une grosse surprise, mm-hmm. mais quand même, Orji Okongo qui a débuté le match. Les buteurs, après un coin 12 minutes de catastrophe, c'est Orji Okongo qui marque à la 14e minute. Ensuite, tout de suite après la remise en jeu, c'est Nacho Piatti qui profite d'un beau pressing de Maxi Urruti pour faire 2-0. À la 80e minute, encore un deuxième but de Nacho Piatti après un beau travail de pressing. Là, c'était Azira, je crois, avec Nuvilo.
Exact.
Et en fin de match, le petit but garbage goal à la tête curve. Ça, c'est pour les références autres que les milléniaux. Comme Wire. sinon, les changements. Il y a eu Chouanière qui est rentré Non, Chouanière, c'était le dernier. C'était ouais. plutôt Pilo qui est rentré à la place de Orji Okongo à la 74e minute. Raitala est venu remplacer Maxi Urruti. Et à la 83e minute, finalement, Victor Cabrera et ses crampes sont sortis pour Mathieu Chouanière. Et bien sûr, à la toute fin, Zakaria Diallo est tombé dans le piège de Dwyer. Carton rouge, il sera suspendu. On reste à voir si ça va être plus qu'un seul match pour le prochain match. Et petite victoire à l'étranger. On avait identifié probablement ces deux victoires-là, c'était les deux équipes qui accessibles pour aller chercher quelques points. Là, les 6 points à Orlando et à San Jose, c'était les deux matchs qui étaient identifiés comme source de points possibles. Là, ce qui s'en vient, ça sera un peu plus compliqué après la pause internationale. Dans le désordre, il y a Kansas City, je crois, le prochain match. Après, ouais. C'est soit New York City ou DC.
Ouais, c'est New York City après DC en milieu de semaine et l'ouverture au Stade Saputo le samedi suivant. Donc ça va être une grosse semaine. Mais je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi, Nilton. Moi, je m'étais donné un objectif de 7 à 10 points là, pour ces 6 premiers matchs-là. C'est un objectif, c'est-à-dire quelque chose qui était optimiste, mais qui serait le seuil à atteindre pour l'impact. Si jamais, par contre, là, l'équipe était pour perdre ses 3 prochains matchs, puis revenir quand même avec 6 points, c'est loin d'être horrible ou mauvais, là, en fait, comme début de saison pour l'Impact. Juste avec deux victoires-là.
Je pense que oui. Je pense que déjà, aller chercher 2 victoires pour le mental du groupe, c'est hyper important. Aller chercher au niveau comptable ces 6 points-là, c'était l'ultime objectif. Là, on peut espérer même aller chercher quelques points à gauche, à droite. Même dans un scénario catastrophe où on perd les 3 prochains, c'est pas si grave. Ça dépend de la manière. Mais on démontre au moins que cette équipe-là est capable d'aller chercher des résultats à l'étranger, chose qui était pratiquement inespérée l'année passée. À Houston, ils ont mal joué, mais ils sont passés proches. Mm-hmm. Et à Orlando, après, comme je disais tantôt, un 12 minutes de catastrophe, et heureusement que Dwyer avait mis son soulier gauche sur son pied droit, on a manqué une coupe, puis nous, on a juste profité de nos occasions, tant mieux pour nous.
Ouais, non, vraiment, puis ce qui est quand même pas surprenant, mais ce que je trouve encourageant, c'est que, tu sais, oui, on parle, bon, de San Jose puis Orlando comme les deux adversaires qui étaient les plus prenables pour l'Impact, mais c'est quand même, l'an dernier, l'Impact arrivait à perdre des matchs à l'étranger contre des Orlando, contre des New England, oui, contre des Philadelphie, contre des équipes qui faisaient pas les séries. Donc, oui, peut-être c'est des équipes plus prenables qui devraient finir derrière l'Impact, mais ça reste encourageant qu'ils soient capables de gagner à l'étranger. Là, c'est ça qui fait la différence à la fin entre une place en série ou pas, selon moi, là.
Exact. Est-ce qu'on passe pour nos analyses trop de poutine, Saputo d'or et j'ai l'air d'un foin?
Ben oui, allons-y.
Je te laisse aller.
OK. Mon Saputo d'or, écoute, on avait l'embarras du choix cette semaine, mais je pense que j'ai pas le choix d'y aller avec Samuel Piette. Je pense que c'est, à mon avis, là, puis je sais que tu vas être d'accord, mais je pense que c'est sa performance la plus aboutie avec l'Impact de Montréal. On sait, là, il nous a montré depuis quoi, presque 2 ans qu'il est là, 1 an et demi, comment il est efficace pour détruire les attaques de l'adversaire, mais là, il a été aussi capable de nous montrer comment il peut être efficace offensivement, comment il peut relancer. Oui, on parle beaucoup là, de sa fameuse passe là, qui mène au but de Okonkwo. On en a parlé, puis bon, Samuel Piette qui a même réagi lui-même sur Twitter, là, on y reviendra, je suis sûr. Mm-hmm. Mais il y a quand même 2-3 autres moments dans le match là où il s'est permis d'aller vers l'avant. Puis bon, comme je disais, là, lui-même, il est revenu sur le fait que il aime ça aller vers l'avant, mais ça prend les options, puis il faut que le coach lui laisse à l'attitude, c'est vrai. Je pense que des fois, ce que les gens demandent, c'est qu'ils se donnent le choix ou la chance de prendre cette petite chance-là, de forcer le jeu un peu. Je pense que c'est correct dans son rôle de vouloir vraiment rester au niveau du plan de match, puis de pas déborder. Mais je pense que s'il réussit à gagner confiance tranquillement avec des performances comme Orlando, il va pouvoir se permettre là, de plus souvent aller vers l'avant. Fait que, bref, Samuel Piette, à mon avis, sa meilleure performance avec l'Impact.
Oui, je suis 100% d'accord avec toi là. Je l'ai tweeté, c'est probablement son meilleur match en MLS. Ce qui est bien avec Samuel Piette, c'est facile d'aimer un joueur offensif. Hein. C'est dans tous les sports, c'est comme ça. Mais avec Samuel Piette, on a appris à aimer les qualités d'un joueur défensif. Dès qu'il est arrivé, on a vu c'était quoi avoir un milieu défensif dans une équipe et comment ça pouvait transformer une équipe en milieu défensif. Tu sais, c'est un rôle ingrat là.
Ah, tellement.
Hein? Puis, dès qu'il est arrivé, c'était la fameuse année où c'était une grosse catastrophe. On prenait des volets et on pensait qu'on était éliminé au mois de mai. Il est arrivé, tout de suite, il y a eu un impact. On a gagné 4 matchs consécutifs. Donc, on a commencé à croire aux séries. Puis, éventuellement, il y a eu la débandade. Mais on voit que c'est un pilier en défensive. Et oui, il y a eu tout ce débat-là hier, samedi après le match sur les fameuses passes vers l'avant. Mais, dans le fond, la discussion autour de ça, c'est qu'on est convaincu que Samuel Piette a les qualités qu'il faut pour être aussi impliqué dans les phases offensives. Puis il a démontré, pas seulement sur cette passe-là, il y a eu plusieurs autres passes un peu en fin de match. Il a fait tout de suite, dès qu'il gagne le ballon, il a vu la course d'Okongo, il a fait une passe. C'est arrivé à quelques reprises où il y a eu le premier réflexe, c'était de regarder ses options avant, au lieu de penser à la possession de balle. Mais tu sais, tout est dans le dosage, tout est dans la situation aussi du match. Mais ça a été un match vraiment... J'espère que c'est comme une espèce de pivot dans sa carrière MLS, ce match-là, où on voit une dimension différente. Là, il s'en va en pleine confiance à la sélection canadienne.
Exact.
La sélection canadienne, comme l'Impact de Montréal, va avoir besoin de ce genre de joueur-là. Pour moi, bon, comme tu as dit, l'autre Saputo d'or, j'ai le goût de le donner à Okonkwo parce que là, on l'a vu vraiment le potentiel de ce joueur-là. J'aime tellement sa confiance avec le ballon. Il est très attiré par la surface. Mm-hmm. Il se positionne rapidement en position de tir. Il a le flair. Il a un flair pour le but. Puis je veux pas m'acharner, là, mais. Non, mais il y a un flair pour le but un peu plus qu'Urruti.
Ouais, mais tu l'as écrit pendant le match, je pense. On a parlé beaucoup là, de est-ce qu'Urruti serait capable d'atteindre ce fameux plateau de 10 buts. Je pense que Okonkwo est peut-être moins efficace sur la longueur et la largeur du terrain qu'un gars comme Urruti. Mais Okonkwo, je pense que sur 34 matchs, il t'en met 10. Là, c'est ça que tu disais toi aussi.
Oui, c'est ça. On va en parler un peu plus parce que plusieurs questions qu'on a reçues pour le podcast, c'était entre autres le positionnement d'Okonkwo et différents schémas. Donc, on va s'en garder. Le trou de poutine.
Le trou de poutine, écoute, j'ai pas le choix d'y aller avec Victor Cabrera parce que t'en as parlé tantôt, puis si Dom Dwyer est dans une bonne journée ou s'il décide que c'est un vrai joueur de foot puis qu'il est capable de mettre le ballon au fond du but, on a peut-être un discours vraiment différent là, puis l'impact égalise ou perd peut-être ce match-là. Ouais. Et je peux comprendre là, Victor Cabrera aussi dans ce match-là, là, il a fait vraiment de belles interceptions. Puis
il y a eu des erreurs. Des grossières erreurs.
C'est ça, là, c'est que c'était un peu trop gros.
Il y a eu un mauvais match et qu'il y a eu deux, trois actions vraiment là, de danger. Il mettait le danger dans son équipe.
Ouais, puis des actions de. Normalement, là, dans une bonne journée, c'est des buts directs. Puis ça ne peut pas arriver deux fois dans un même match.
Si c'était dans les pieds de Nani, ça avait été deux.
Exactement. On en reparlera de Nani aussi. Je suis curieux d'avoir ton avis sur sa façon de jouer. Mais oui, bref. Donc, Victor Cabrera, en plus, là, avec Diallo qui se fait expulser, c'est sûr que Cabrera va revenir là, à Kansas City. Puis on a vu qu'il est revenu dans ses mauvaises habitudes de crampes en fin de match. Oui, bon, vous allez me dire qu'il fait chaud à Orlando. Je veux bien, mais comme on voit quand même qu'avec Cabrera, plus ça change, plus c'est pareil. Il va faire des grosses erreurs, il va avoir des crampes en fin de match. Et malheureusement, là, je pense que ça peut pas être une solution à long terme là, s'il continue à avoir ces problèmes-là.
Je suis d'accord avec toi. Moi, je vais aller pour faire différent. Peut-être pas seulement sur ce match-là, mais je dirais comme un trou de poutine de début de saison. J'aime pas trop l'absence de Lovitz dans les trois premiers matchs.
T'as raison.
Je le vois pas trop impliqué. Je le vois pas faire des erreurs grossières. Mais je le vois pas non plus être très impliqué défensivement, offensivement. C'est bizarre parce que là, il a été rappelé à la sélection américaine. Puis c'est peut-être sa moins belle passe de carrière depuis qu'il est à Montréal.
Vraiment?
Je ne sais pas si le fait de ne pas avoir été là au camp d'entraînement, si off-tempo, parce qu'autrement, je ne vois pas pourquoi. Tu sais, il y a les mêmes habitudes. Il combine encore avec Tider, avec Piet. Ouais. Mais bon, espérons que c'est juste une petite pause puis ça va se replacer. Pour l'instant, ce n'est pas une catastrophe. Non, c'est pas non plus de le sortir de la lumière.
Non, c'est ça. Puis c'est difficile à expliquer un peu parce qu'il ne fait pas, là, comme je parlais de Cabrera, David ne va pas faire de grosses erreurs ou ne va pas te donner d'occasion. Mais c'est vraiment juste les petites choses qu'il faisait l'année dernière, le petit dribble qui réussissait à faire ou la passe lobée vers Piatti, qui est vraiment absent là, dans ces trois premiers matchs-là. Puis comme tu dis, il s'implique pas autant défensivement. Je suis un peu curieux, là, puis je sais qu'il y a eu l'histoire, je sais pas si tu as plus de détails, il y a eu l'histoire de son nouveau contrat. L'Impact avait une option, aurait signé un nouveau contrat. Finalement, ça n'a pas été signé, donc il est toujours sur l'option.
Je ne voudrais pas que ça soit ça, là, parce que...
Ouais, surtout
si, mentalement, il aime pas trop, je sais pas, une promesse pas tenue ou exact. Un truc comme ça, ça peut dégénérer rapidement.
Puis là, il se fait sélectionner en sélection américaine et il faudrait pas qu'il commence à avoir la grosse tête non plus. Fait qu'en tout cas, je pense qu'il y a une situation un peu délicate à gérer du côté de Lovitz.
Ouais, c'est un truc à suivre. J'ai l'air de foin pour ce match-là à Orlando?
Ben écoute, je voudrais être original, mais je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller avec Dom Dwyer, qui a quand même... J'ai l'air d'un foin parce que, bon, premièrement, il se permet d'être une petite peste comme ça, puis d'être dans les jambes, puis de parler non-stop à tout le monde, alors qu'il est un attaquant qui a raté des chances que j'aurais probablement réussi à mettre au fond du but. Fait qu'il y a une espèce de quelque chose là-dedans que je trouve contradictoire. Puis, à part là, ces gestes-là de Dwyer, je pense qu'il faut revenir un peu là, sur le geste antisportif de Higuita. Je pense qu'il part le ballon après une blessure alors qu'il devrait juste le redonner à l'Impact puis qu'il joue un ballon en profondeur. Selon moi, là, c'est une des premières choses que tu apprends dès que tu commences à jouer au foot. Si tu fais juste pas ça, tu redonnes le ballon à l'adversaire. Peu importe les conditions, peu importe le moment du match, ça se fait pas à mon avis. Fait qu'il y a un gros gelard d'un foin pour ça.
D'accord avec toi. Moi, j'ai deux petites situations qui m'ont bien fait rire pendant le match. Mais dès le début, le tweet de l'Impact de Montréal, la photo d'équipe était vraiment trop drôle. C'était annonciateur que Diallo allait pas finir le match. Ouais. C'est une liste de photo d'équipe où tout le monde est tout le départ, puis t'as le grand pic de Diallo qui est sur la photo. C'était vraiment trop drôle.
C'est vrai.
Puis il y a la fameuse insulte que Rémi Garde a envoyée au quatrième arbitre là, pendant que ça dégénérait, là, puis il disait c'était le festival des cartons, puis il a commencé à critiquer le fait comme que tous les équipes américaines avaient aussi des green cards. Là, ça dégénérait. Là,
c'est excellent, ça va rester. Là. On voit que Garde aussi, il n'en parle pas nécessairement beaucoup, mais ça l'énerve la situation des green cards.
Disons que la MLS, là, il commence à la connaître assez bien.
Définitivement.
C'est culturel à ce club-là aussi. Tu sais, souvent, on en parle, Sofiane puis moi. Il y a le syndrome de la victime. Hein? Tout le monde est contre l'Impact de Montréal, la MLS veut pas que l'Impact gagne. Tu sais, là, ils rentrent dans ce mood-là. Hein. Là, c'est pas parce que Joey est plus dans les bureaux qu'on n'a pas encore les mêmes conversations dans les bureaux. Donc,
non, c'est vrai. Mais s'il n'y avait pas de. On peut pas parler de complot d'arbitrage, là. C'était quand même un des arbitrages les plus difficiles ou médiocres que j'ai vu en MLS. Là, juste dans le contrôle du match, dans le choix des fautes qui sont appelées et non appelées, on a vraiment senti un build-up qui a créé ce qui est arrivé à la 90e minute. Là, c'était un peu triste à voir là, l'arbitrage.
C'est difficile à contrôler un gars comme Dwyer. T'sais, on le voit, sans oser aussi, Wondolowski, il parle sans cesse. Dans les matchs à la télévision, probablement qu'on voit pas tout, là, mais au stade, là, quand on assiste à un match, là, pis, c'est terrible comment un joueur peut mettre de la pression constante sur un arbitre. Puis un arbitre qui est pas, qui a pas l'expérience, puis qui, on l'a dit là, que c'était son deuxième match en carrière en MLS. Là, mais,
c'est ça, on en a parlé.
Oui, on a parlé beaucoup. Bon, mais c'est pas comme son deuxième match à vie. Là. Il a vu des chialeux pendant sa carrière, mais c'est quelque chose de c'est une pression supplémentaire. Là. Et là, Nani, vers la fin du match, c'était un peu une cause perdue, là. Mm-hmm. Mais lui aussi a essayé un peu de mettre de la pression comme ça. Puis là, d'autre côté, Tider, là, on l'aime parce qu'il est en blanc, là. Un Tider en rouge.
On le déteste. Hey, mais c'est drôle que tu dis ça parce que je regardais Tider, non seulement dans sa façon de parler aux arbitres, mais tu sais, il y a un moment où Mathieu Choignard il a un peu volé un ballon puis il s'est fâché. Puis on disait au début là, que Tider était très différent de Jemaili pour baisser nos attentes, mais à ce niveau-là, Tider, il me fait de plus en plus penser à Jemaili.
Il a fait un blérime, là.
Ah, exact. Sa façon d'être fâché constamment contre ses coéquipiers ou contre l'arbitre ou contre tout le monde, en fait. Puis c'est souvent quand il joue le mieux qu'il est comme fâché constamment. En tout cas, c'est un autre petit gelard d'un foin pour Saphir, je trouve, à Orlando.
Sinon, comment t'as trouvé Luis Nani? Fais-tu partie de la vaste majorité qui croit que c'est un joueur terminé, fini, il est vieux, champion d'Europe?
Ben, écoute, non, je dirais pas fini parce que je trouve qu'il y a vraiment des moments dans le match. Même surtout au début, là, je trouve qu'il était il était dominant. Tu voyais qu'il y avait une coche, là, en tout cas sur ses coéquipiers. Il y avait définitivement une coche sur le terrain. Par contre, je trouve qu'en fin de match, peut-être que parce que c'était 3-1 ou 3-0 impact, il voulait s'en mettre un peu trop sur les épaules. Mais il y avait cette petite tendance-là à essayer le dribble de trop, à essayer le jeu un peu trop compliqué pour en mettre peut-être plein la vue. En même temps, il commence à Orlando, fait qu'il veut faire ses marques, il veut se faire connaître là, par la foule, par les joueurs. Mais je l'ai pas trouvé extraordinaire. Là. Je pense pas qu'il peut s'inscrire dans la catégorie des gars comme Rooney ou Zlatan ou autres là, qui sont arrivés d'Europe et qui ont un impact immédiat. Je pense qu'il y a encore le calibre pour jouer en MLS définitivement. Mais c'est ça. C'est peut-être là où ses jambes un peu vieilles ou ses blessures le rattrapent. Là. C'est en fin de match, on sentait qu'il était plus tout à fait au niveau. Là. Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé, toi.
Mais tu sais, Nani a beaucoup évolué là. Au départ, quand il a quitté le Portugal pour aller à Manu, c'était un autre allié là. Tu sais, c'était tout le monde cherchait le prochain Ronaldo. Là, on s'entend qu'il est très très loin de ce profil-là. Mais c'était un allié pur là. Les fameux alliés portugais là. Tu sais, il y a eu les Simon, les Luis Figo. Tu sais, il y en a eu. Nani, quand c'est à ses belles années, c'était le gars explosif qui était capable de battre quelqu'un un contre un avec sa vitesse et ses dribbles. C'est plus du tout ça, Luis Nani.
Non, vraiment pas.
Même en 2016, avec la sélection portugaise, c'était un attaquant. Il jouait autour de Ronaldo. Puis c'est là qu'on voit sa force. C'est quand il n'est pas obligé d'utiliser constamment sa vitesse pour battre ses marqueurs, il donne des ballons extraordinaire.
Ouais, exactement. C'est vraiment sa force.
Exactement. Avant le but de l'Impact de Montréal, il donne deux bons ballons. Après, il y a un rôle qui ressemble. C'est comme si Clashton était de trop parce que c'est un peu le rôle qu'il avait, Sacha Clashton, avant que Nani soit là. Et là, avec ils se perdent un peu les deux. Mm-hmm. Si Nani a le ballon, Sacha sert moins à quelque chose, tu sais, il est moins utile. Puis oui, 90 minutes, c'est peut-être un peu trop, mais Orlando défensivement, la récupération de balles, tout ça, c'est assez atroce.
Non, non, on sent aussi que je pense que l'entraîneur d'Orlando cherche encore la meilleure façon d'utiliser Nani. Tu sais, Nani, je pense que c'était son troisième schéma différent en trois matchs.
Mais à chaque fois, il est utilisé comme deuxième attaquant. Là. Okay, c'est clairement. Au moins ça, ça a l'air d'être réglé de son côté, mais
parce qu'il pourrait pas, Nani pourrait pas jouer dans un schéma comme celui de l'Impact à la place d'un Piatti ou d'un non, ou à droite. Il pourrait pas avoir des quelconques responsabilités défensives ou de course dans le couloir. Là. Ça, non, ça c'est trop pour lui.
Il peut pas être non plus le seul attaquant parce que c'est pas nécessairement un gars qui est là à la finition. C'est même un profil différent d'Orouti. Tu sais, Orouti, on dit que c'est peut-être pas un buteur, mais il fait tout le travail. Mm-hmm. Nani ne peut pas faire ce travail-là. Nani, il est comme un deuxième attaquant qui crée de l'offensive. Il est un pratiquement un profil de milieu offensif un peu là, dans ces dernières années.
Non, mais t'as raison, ils vont se marcher sur les pieds avec Clechton, mais d'ailleurs, Clechton, lui, le fait de quitter les Red Bulls de New York, j'ai l'impression que ça l'a vraiment fait péricuter sa carrière, là, je le reconnais plus sur le terrain. Il était tellement efficace dans le système de Jesse Marsh au milieu.
Il y avait une saison MVP, là. Il était extraordinaire Red Bulls.
Puis oui, tu sais, il était bien entouré avec Wright Phillips qui mettait tous les buts puis qui lui donnait des passes décisives, mais quand même, le joueur qu'on a vu hier sur le terrain, c'est un joueur que n'importe qui à Montréal aurait pris un an à peine. Puis je pense que si on repose la question aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui le veut. Là. C'était un peu pénible même à certains moments. Là.
Tout à fait. Donc, est-ce qu'on passe aux questions de nos Twitter?
Certains, allons-y.
Une des questions qui est venue assez souvent, dont celle de Matteo Marquez, le gardien d'Orlando, méritait-il un rouge sur le premier but de Nacho Piatti?
C'est une bonne question. Je pense que c'est un peu une question d'interprétation des règlements. J'ai l'impression que si Piatti est pas là, que Urruti se fait faucher, que le ballon est repris par Orlando, à mon avis, il y a un rouge. Je pense que le fait que Piatti complète la séquence puis met un but a fait en sorte que ça a juste été un carton jaune. Après, là, je suis pas un expert des règlements, donc je sais pas. Puis tu sais, c'est toujours sujet à interprétation selon l'arbitre. Mais moi, comme il y a un but, c'était une sortie que je pense pas qu'il était malicieuse. Là. Je pense qu'il jouait le ballon autant que possible. Ouais. Donc moi, je pense que la décision est correcte, là, à ton avis.
Ouais, le geste était pas d'une nature violente. Il était un tac un peu raté, un peu dernière minute. Puis c'était pas nécessairement une chance claire de but. Puis oui, je pense que l'arbitre a dit bon, le mal est fait là. Je vais pas les punir encore un peu plus. Puis personne n'a contesté plus que ça. Puis finalement, on était juste content que Urruti se soit pas blessé davantage sur cette séquence-là.
Mais ce gardien-là contre l'Impact, c'est jamais une histoire facile. Je sais pas si tu te souviens, c'était lui.
Non?
C'était lui qui avait donné le but à Didier Drogba quand il jouait pour le Galaxy. Là. Didier Drogba avait eu un coup franc à la comme 92e, direct sur le goaler, qui l'avait échappé dans le but. Ah, j'oublierai jamais ce moment-là. Mais ouais, Brian Rowe, toujours de la misère contre l'Impact.
Amine Sabri nous demande, est-ce que l'Impact devrait contester le rouge à Diallo, sachant que tout découle du manque de fair play et Iguita?
Ah, j'y pensais aujourd'hui, puis tu sais, logiquement, on pourrait dire que oui, mais ça fonctionne pas comme ça. Là, je pense que Diallo a commis ce geste-là clairement. Il a mis sa main au visage, il a poussé ses textos,
c'est un carton rouge. Non?
Exact. Le contexte importe peu rendu là. L'action était rendue plus loin. Puis il avait juste pas à faire ça, Diallo. Là. Puis je pense qu'il l'a sait lui-même. Il l'a écrit tout de suite après le match. Il s'est laissé avoir. Je pense que c'est une erreur de jeunesse. Il est plus si jeune, mais tu sais, il est nouveau encore en MLS. Il connaissait pas beaucoup Dwyer. Je pense qu'il se laissera plus prendre. Là. Puis c'est mieux que ça arrive là qu'en toute fin de saison.
Oui, tout à fait. C'est clairement indiqué dans les règlements FIFA. Une main au visage, c'est rouge automatique. Vous irez voir là sur mon fil Twitter, Émile Archambault explique clairement là des situations comme ça, même le fuck. S'il y a une situation de caca quand il joue à Orlando, ça dégénère un peu avec Aurélien Collin. Mm-hmm. Puis, c'est des anciens coéquipiers, tout ça. Puis eux, ils s'amusent un peu. Puis Kaka prend le visage de Colin. Il est dans son dos, puis il prend le visage pour le narguer. Mais les deux rient, là. Il n'y a aucune violence, aucune méchanceté entre les deux. Puis ça doit dater de 3 ans à peu près. Et le juge de ligne voit la situation, le dit à l'arbitre, ils font à la barre, confirme qu'il est main au visage. Et Kaka a été suspendu, il y a eu un carton rouge. Oui, c'est fou, c'est loufoque, on comprend. Mm-hmm. Il n'y a aucune compréhension de la situation, mais c'est clair et net. C'est end to the face, carton rouge. Donc, il n'y a aucun intérêt d'aller contester et de perdre cette contestation-là, peu importe ce qui s'est passé avant. Puis le fair play, c'est pas une obligation non plus, là.
Non, c'est pas une obligation. Fait que c'est ça, c'est pas dans les règles, mais c'est quand même une règle non écrite, on pourrait dire. Puis de toute façon, pour ce qui est de l'appel, je pense que la MLS se donne le droit de annuler la suspension ou même la rallonger. Donc, il n'y a pas de chance à prendre, à mon avis, du côté de l'Impact. Il va avoir une rotation à faire au courant de l'année, de toute manière, au niveau des défenseurs centraux. Fait qu'autant être capable de voir là, si l'Impact est complètement déstabilisé sans Diallo ou est capable quand même là, de jouer avec, que ce soit Raitala ou Camacho.
Sinon, une tonne de questions, entre autres de Normand Ouellet, Kevin Tuska. On parle tout d'un schéma différent que l'Impact de Montréal pourrait utiliser pour essayer de maximiser ce qu'on a vu comme potentiel de Ourgé au Congo comme avant-centre, de repositionner peut-être Maxi Urruti, soit un peu plus reculé comme milieu central. Et là, il faut savoir qui on sort à ce moment-là, ou le désaxer et le mettre à la place de Ourgé au Congo. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'es Rémi Garde, tu vois ce match-là. T'essayes-tu un autre schéma pour suite au match d'Orgie?
Ben, honnêtement, moi, oui, Orgie a vraiment bien joué, mais moi, ce qui ressort le plus de ce match-là, c'est la performance dominante là, de Taider Azirapiet. Je trouve que les trois ensemble ont complètement mangé le milieu d'Orlando. Ils ont contrôlé le tempo du match, ont permis à l'Impact de s'installer en possession, puis ont fait en sorte que la défense, même si elle n'était pas dans une si bonne journée, qu'elle souffre pas trop. Fait que c'est sûr que moi, je regarde ce match-là, puis je toucherai pas à ce milieu-là de trois. Je sais que, puis c'est mon cas aussi, là, je pense que Azira, l'Impact est capable d'avoir peut-être un profil de joueur qui serait un peu plus dominant MLS à sa place, mais lui, le rôle qu'on lui a donné jusqu'à maintenant, il le remplit parfaitement. Donc, c'est vraiment difficile de le retirer du 11 partant parce que...
Je sais pas qui l'a suggéré dans l'organisation de l'Impact de Montréal, là.
C'est toute une prise quand même. C'est peut-être Adam Braz, hein. On lui a souvent levé du.
Est-ce qu'il a laissé son dossier quelque part? Quelle prise. Non, sérieusement, ça coûtait rien. Puis il donne un maximum. Il faut pas oublier qu'il était là avant. Là, on l'aimait beaucoup.
Exact.
Il était limité, Ken Kroulouki, mais il a jamais été capable de faire. Puis on le savait, le travail d'Azira, là.
Non, c'est là que l'expérience d'Azira est vraiment importante pour l'Impact. Parce que c'est souvent ça qui revient, je pense. Là. Ce serait un espèce de schéma 4-2-3-1 où Piet et Taider là, seraient les seuls devant la défense.
Mais le problème, c'est que si on fait ça, si on se retrouve avec deux milieux au lieu de trois, puis qu'on garde, disons qu'on on y va avec une espèce de logique où on tasse Azira, Taider, on limite tout son apport
exact.
Offensif. Je suis pas sûr qu'il va beaucoup s'amuser seulement à récupérer des ballons. Il va être éventuellement aspiré vers le haut. On perd beaucoup de solidité de la structure qu'on a présentement. Je suis pas convaincu là.
Non, exactement. Puis même là, je pense que de demander là d'une semaine à l'autre à Taider là, de prendre un rôle plus défensif, je sais pas à quel point ça... Tu sais, je pense que Taider, là, automatiquement, depuis qu'il joue avec l'Impact, il se retrouve vraiment attiré vers le côté gauche de Piatti. Puis les deux ont développé une entente qui fait que Taider va suivre plus souvent qu'autrement sur le terrain. Fait que je pense que Samuel Piet, là, pour un certain temps, est capable là, de couvrir devant la défense, mais de demander à long terme là, de laisser pratiquement juste lui... ou de museler Taider, je pense que c'est des options qui sont pas optimales pour l'Impact actuellement. Peut-être qu'on y viendra, mais je pense que c'est mieux de garder le milieu à trois, quitte à trouver éventuellement un autre joueur peut-être plus performant ou plus dans le moule de Taider à la place d'Azira. Mais le milieu à trois, pour l'instant, réussit bien à garder. Il a souvent utilisé ce schéma-là. Moi, je pense que je le garderais là.
Il faut les défenses à deux, les milieux de terrain juste à deux, c'est de moins en moins fréquent dans le football moderne et il faut des monstres de milieu là. Il faut des gars qui soient très forts techniquement, qui ont un gros volume de jeu, c'est des up and down sans cesse là, c'est
exact.
Pas facile à trouver dans la MLS. Puis on a vu aussi qu'il y a une espèce de système de compensation qui s'est formé avec le temps où Azira, on le voit souvent là, prendre la place de Sagna qui monte. Levitz, il monte aussi, puis il combine bien. Et si jamais il monte, c'est Piet qui s'en vient compenser. Donc et là, si on retombe avec un schéma différent, tous ces automatismes de remplacement risquent d'être un peu chambre à nez. Puis j'ai peur, là. J'ai peur de cette structure-là. Oui, je l'ai dit qu'au Congo, comme avant-centre, je pense sincèrement que c'est minimum 10 buts.
Ouais.
Mais le problème, c'est que je ne sais pas si au Congo est capable de faire tout le travail que Urruti fait. Oui, là, je suis en train de lui donner des qualités. Là.
Non, mais je suis assez d'accord. Mais vas-y, continue.
Ouais, parce que il réussit à faire ce qu'il fait Orgy parce que il est sur le côté, puis il y a beaucoup moins de travail à faire, à couvrir comme adversaire direct, et il finit par être aspiré vers la boîte. Il a terminé avec une position moyenne plus haute qu'Urruti, mais il bénéficie d'Urruti de son travail. Tu sais, oui, il a le flair, oui, il se retrouve souvent proche du gardien, ça lui demande pas beaucoup de touches de balle pour faire un tir dangereux. Il a une frappe beaucoup plus puissante qu'Urruti, mais c'est pas grave d'avoir des buteurs sur les côtés. On en a un pas pire, là, à gauche. Puis on fonctionne comme ça. Tant et aussi longtemps qu'Urruti fait ce genre de travail-là, c'est bien. Il va falloir éventuellement qu'il arrête de tirer de si loin, hein, parce que ça commence à devenir un réflexe. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de schéma parfait, mais pour l'instant, c'est pas mal. Ça va être pas mal ça, à moins de blessures, à moins de, tu sais, on court après un score, puis là, on y va avec deux attaquants. Tu sais, il y a des situations particulières.
Exact.
Toute cette flexibilité-là, Rémi Garde se retrouve avec une boîte à outils tellement plus vaste que l'année passée.
Vraiment.
Il peut remplacer un joueur pour un autre, pas seulement par position pour position, mais un profil différent. Tu sais, Novillo, quand il est rentré, on a vu aussi une autre différence, là. Et ça va garder les joueurs alertes et frais. Puis c'est juste positif. Donc, le 4-3-3 qu'on a vu, à moins de blessures, ça va être pendant une bonne partie de l'année. Et c'est tant mieux. On ne retournera pas au fameux 3-5-2 expérimental où tu entends des piétis en avant. C'est fini ces pertes de matchs-là pour rien. Garde, il connaît son effectif au bout des doigts. Ça va prendre un petit peu, je pense.
Ouais, moi, je pense qu'à terme, là, Okonkwo peut devenir l'espèce de remplaçant numéro un par excellence. Là, c'est-à-dire que ce soit... Si on prend pour acquis que Novillo reprendrait sa place sur l'aile droite, je pense que si, dépendamment de la physionomie du match, Okonkwo pourrait remplacer soit Novillo, soit Urruti en pointe, remplacer un milieu pour, justement, l'impact a besoin d'un but. La seule chose que... Puis je suis sûr que ça va arriver, qu'on va le voir, là, tout seul en pointe, peut-être pour débuter un match dans un quelconque contexte. J'ai juste hâte de voir si, considérant que là, on est en train de s'habituer à des attaquants comme Urruti, qui revient vraiment s'impliquer, puis qui reste le plus possible, qui participe à la construction. J'ai l'impression qu'un gars comme Okonkwo, comme tu dis, là, qui ferait pas nécessairement toute cette charge de travail, c'est peut-être le genre d'attaquant qui serait propice à disparaître pendant de longues minutes dans un match si l'impact perd la possession. Puis ça, on sait qu'on a eu beaucoup de difficultés avec ça dans le passé. Jackson est un peu comme ça, et c'était beaucoup le cas avec Mancosu. Fait qu'il y a juste à ce niveau-là que je vois peut-être un petit bémol là, de voir Okonkwo en pointe. Mais sinon, moi, je pense que plutôt que tard, va falloir l'essayer, là, même si on aime beaucoup le travail que fait Urruti. J'ai l'impression qu'Okonkwo, si Novillo reprend sa place sur l'aile droite, il va continuer à forcer la main de garde pour qu'il trouve une place.
C'est sûr, parce que si on commence un match avec Novillo à droite et avec Okonkwo sur le banc, et c'est à la 60e minute, un match à domicile, c'est encore 0-0. Là, il y a les options. Là.
Ah, puis là, tout d'un coup, c'est ça. T'as Okonkwo, puis t'as Chouanière, quand même.
Jackson Hamel qui est là.
Jackson Hamel, tout d'un coup, il y a un meilleur banc.
Pensez, là, l'année passée, dans le fond, Okonkwo est arrivé 6 mois trop tard. Parce que on a cette option-là là, sur le banc l'année passée. C'est sûr qu'on l'utilise. C'est sûr qu'on va chercher quelques points à gauche, à droite. Et peut-être que finalement, on fait les séries. Parce que c'est un joueur talentueux. Il est pas parfait. Mais au moins, ça fait du bien d'avoir... de pas se retrouver, mon Dieu. Ah oui, avec des bols d'or.
Dayan Baldor. Ah, puis en plus, Okonkwo me semble le genre de gars qui essaie de tirer un peu de. Tu sais, dès qu'il y a une occasion, il essaie de tirer. On l'a vu là des fois avec un def sur le dos carrément, là, qui se retournait puis il cadre ses frappes. Tu sais.
Oui,
l'impact souvent de la misère avec ça.
Sur une séquence de 10 minutes à peu près, en deuxième demi, on voit deux extrêmes. On voit Okonkwo qui reçoit un ballon un peu dégueulasse, contrôle, retourne, pow! Ballon bien placé, sorti de la main par le gardien. Urruti reçoit un parfait ballon, fait une touche de trop, tourne à gauche, tourne à droite, finalement, il n'a jamais tiré. Mais ça ne s'apprend pas. Puis, Urgé, il semble avoir ce flair-là de finisher, tandis que Urruti n'est plus là en complément. Mais bon.
Non, puis je pense que.
Je ne peux pas encore parler de haut.
Non. T'es avec moi, Nelton, on peut être positif, là, c'est correct.
Sinon, il y a le débat du remplacement de Diallo, Maxime Poliquin, LP Bardouniotis qui nous demande prochain match. Ça ressemble à quoi notre charnière centrale?
Ben, je pense qu'on serait tenté de dire Raitala parce que c'est lui qui s'est retrouvé là en fin de match à Orlando. Mais il y avait tout le contexte de Raitala est rentré pour être sur la gauche au départ, puis qu'ensuite, quand Cabrera est sorti, s'est recentré. Donc, je ne sais pas si on peut en tirer vraiment une conclusion.
Je vais te la poser la question. Vas-y. Elle va être très, très facile. Okay, on va, Cabrera est en grande forme. Il est là. Il est à droite. Qui tu veux à côté de lui? Raitala ou Camacho?
Je vais dire Raitala. Raitala parce qu'il nous a, parce que ce qu'il nous a montré l'année dernière, que c'est un gars qui est pas flamboyant, qui fait son travail, qui fera pas d'erreur. À côté de quelqu'un comme Cabrera, c'est très important d'avoir une présence rassurante, quelqu'un qui va faire le jeu simple. Donc, dans ce contexte-là, moi, je pense qu'on a pas le choix d'y aller avec Raitala.
Et Camacho, c'est fou quand même,
je parle pas espoir. Je sais, c'est fou. Puis,
Il est rendu quatrième.
Et puis, j'étais un de ceux au début de l'année qui pensait que Camacho aurait une bonne saison puis retrouverait ses marques. C'est pas fini, là. Ça se peut que ça arrive.
Oui,
mais je suis quand même surpris de voir à quel point il est descendu, puis à quel point il a pas joué vraiment en pré-saison beaucoup, puis il a été écarté.
Camacho aurait été un bon remplacement
à Cabrera.
Mais vu que c'est Diallo qui sort, puis que Cabrera, on le changera pas, on le sait, ça fait 6 ans qu'il, comme on dit en termes de hockey, qu'il pinch.
Ouais, c'est vraiment ça.
On peut pas se permettre d'avoir deux gars qui vont aller faire de la pression sur le joueur, là. Ça serait pas impossible, là. Mais ça devient un enjeu majeur, là. Quand on se retrouve avec un joueur international sur le banc, pas seulement sur le banc, mais qui est quatrième défenseur central.
Non,
je sais pas qui a suggéré Camacho, mais on devrait plus l'appeler.
Ah, définitivement. Non, c'est curieux un peu le cas de Camacho, parce que tout le monde là, parlait d'un gars qui était capitaine de son équipe, qui arrivait et qui pourrait
vraiment
être comme un leader. Puis c'est zéro ça qu'on voit.
Personne ne connaissait vraiment.
Non, exact.
Après, peut-être 2-3 personnes qui suivent le championnat belge. On n'est pas... On dit beaucoup de choses, mais c'est comme si on lisait des communiqués d'équipe, là.
Ah, définitivement.
Parce que, je veux dire, Camacho, il jouait même pas dans les équipes, dans le premier tiers du championnat belge. Oui, on avait des flashs, des beaux vidéos YouTube. ça a été un gros risque, là, mais qui pour l'instant n'a pas trop payé.
Non, puis il est plus proche de la trentaine que de la vingtaine, si je ne m'abuse. Ça fait que c'est quand même à se demander, là, c'est quoi la prochaine étape, là? Il vient ici, il a un gros salaire, mais il joue pas. Fait que peut-être que lui aussi serait ouvert si l'Impact, ultimement, là, décide d'essayer de l'échanger ailleurs en MLS, si c'est une possibilité. Peut-être que même lui, là, serait ouvert à cette possibilité-là, mais il va avoir quelque chose à faire parce que, pour le moment, d'avoir 600 000 qui dorment sur le banc, c'est loin d'être du bon moneyball,
exact.
Non, vraiment pas.
Lee Wen et Marc Beltaide, entre autres, nous demandent qui fit mieux dans le schéma de l'Impact de Montréal. Est-ce que c'est finalement Opongo ou Novilo?
Hey, c'est une bonne question parce que il y a à peine une semaine, je t'aurais répondu Novilo sans hésiter.
Exact.
Puis bon, les qualités de Novilo sont indéniables. Le gars, il a un QI foot, à mon avis, qui est très élevé. Il est vraiment utile sur le terrain. On l'a vu en dedans de seulement 15 minutes. Par contre, je trouve qu'il y a un peu déjà une tendance à revenir beaucoup, beaucoup vers le centre. On le voit, là,
Mais c'est pas négatif, moi.
Non, pas du tout. Puis ça lui permet d'aller combiner avec Tider et Piatti. Par contre, moi, ce que j'aimais de Cuonco dans le match à Orlando, c'est qu'il rendait l'attaque de l'Impact totalement imprévisible. Ça peut être un long ballon vers la gauche, vers la droite. On peut grimper monter vers le centre avec Urruti. Puis on a des options un peu partout. J'ai peur qu'avec Novilo, le jeu de l'Impact revienne avec sa forte tendance à gauche. Mais à part ça, moi, je pense qu'il faut ramener Novilo en tant que partant. Je pense que c'est un gars qui a le potentiel pour être honnêtement là, un bon joueur en MLS. Puis Okonkwo, comme je l'ai dit tantôt, va avoir ses opportunités.
Ouais, moi, je suis vraiment ambivalent. Moi, ce que j'aime, dans le fond, c'est qu'il y a de la concurrence pour un poste. Trop souvent, quand on entend des noms associés à l'Impact de Montréal, j'ai tout le temps les mêmes personnes qui me disent ben « Oui, mais on a lui déjà. » Mais on s'en fout. Tu sais, on n'a pas besoin de bons joueurs, là. Ultimement, les 20 de l'effectif senior, ça devrait être tous des titulaires potentiels. Exact. Il faut que Orji Okongwo se dise « Ben, ce match-là, même si j'ai été bon la semaine passée, si je suis pas bon après 60 minutes, c'est Novillo qui va embarquer. À l'entraînement, Rémi Garde le répète souvent, là, c'est un système de mérite. Donc, à l'entraînement, il faut qu'il se donne, il se donne, il se donne. Puis des petites blessures, il y en a tout le temps, là. Toujours, toujours, toujours. Novillo, on a perdu pendant 2 semaines. Il va en avoir des blessures. Je veux pas être pris par une panique si jamais Tyder, Piatti, même Piet se blesse. Ça devient compliqué à remplacer. T'sais, j'aime le fait qu'ils soient totalement différents, ces gars-là.
Ouais, moi aussi.
Ils apportent des choses différentes. Qu'une équipe en face qui s'est préparée pour Novillo, qui joue contre Novillo pendant 60 minutes, puis qui est au Congo qui arrive, puis qui fout le bordel. J'aime ça. C'est pas vrai qu'on gagne des matchs dans les 60 premières minutes à chaque fois. J'aime avoir tous ces outils-là totalement différents. Puis là, une semaine plus tard, on parle même plus de Chouanière. Puis la semaine passée, on disait, ben Chouanière, peut-être qu'il mérite une place comme titulaire. Peut-être qu'on devrait l'utiliser comme milieu central. Tu sais, j'aime avoir ça. Puis faut pas l'oublier, on a 17 joueurs seniors. Il y a encore de la place. Puis j'en veux d'autres joueurs comme ça qui vont faire de la concurrence puis qui vont apporter des éléments différents.
Non, exact. On parle même plus de Baïa qui, on se rappelle, aurait été le titulaire au premier match.
Tu
vois quand même?
Pour moi, là, c'est sûr que si ça a été dit, c'est vrai. Mais je suis un peu un peu étonné par cette déclaration-là. T'sais, sérieusement, on aurait commencé le premier match avec Baïa à droite.
Ben, je peux quand même le comprendre parce que ça semble être un gars qui est aimé du staff. Puis comme tu dis, là, tu parlais de mérite à l'entraînement. Je pense que c'était un peu dans cette optique-là. C'est-à-dire c'est un gars qui travaille vraiment fort à l'entraînement, qui avait bien fait en pré-saison. Mais c'est vrai que à voir comment on utilise Mathieu Chouanière là, un peu partout, ça aurait été surprenant que ce soit pas lui plutôt que Kwanko. Mais bref, je pense que même dans cette espèce de profondeur utile dans ces 20 gars-là, on peut déjà compter Chouanière comme un joueur vraiment utile à Rémi Garde dans ce sens-là. Puis moi, je pense que plutôt que tard, Baïa va entrer dans ce groupe-là puis va pouvoir être considéré comme une vraie possibilité.
Vas-y. Je vais te lancer une curve. Aujourd'hui, on n'a pas vu une tonne de Chouanière, mais on a quand même assez vu de Chouanière dans MLS pour avoir une idée. Qui est meilleur, Balou ou Chouanière?
Wow, Nilton, c'est une bonne, ça.
On a beaucoup plus vu de Balou, on s'entend.
On a beaucoup plus vu de Balou. Balou était un peu plus jeune, puis avait un style un peu plus explosif. Après, si je reformule un peu ta question, là, si moi, je suis entraîneur, puis je choisis mon 11 partant, je prends Chouanière avant Balou. Parce que je pense que Chouanière, c'est un gars qui est beaucoup plus tactique, qui va plus se donner pour toute l'équipe, qui ménagera jamais ses efforts, qui peut autant jouer sur l'aile que, ben, on l'a pas vu encore en MLS dans l'axe, mais moi, je suis persuadé que c'est un gars qui va être ultimement dans l'axe en MLS. Fait que dans ce contexte-là, moi, je pense que je prends dans mon équipe Mathieu Chouanière avant Balou. Après, ça va peut-être me valoir des heures parce que Balou a un talent incroyable, puis il a fait des choses en MLS que Chouanière fera probablement jamais. Mais je pense que Mathieu Chouanière a le potentiel d'être beaucoup plus efficace puis utile à l'impact que Balou l'a été. Toi, vas-y donc, réponds à ta question.
Moi, je trouve qu'il y a, pour utiliser un terme à la mode l'année passée, il y a un package beaucoup plus élaboré pour avoir une meilleure carrière que Balou, même si c'est Balou qui a le meilleur talent.
Mm-hmm. Bien dit.
Et, encore une fois, si j'étais dans l'entourage de Balou, j'essaierais de le convaincre de revenir en MLS. C'est là qu'il peut se développer. C'est à peu près le seul endroit où il peut se développer tranquillement, que ses défauts peuvent être un peu plus protégés. Mm-hmm. Ça a été une... On était tous très, très contents de dire qu'il était parti à Barcelone. On a beaucoup oublié que c'était le B. Il y a probablement plein d'autres éléments dans les coulisses qu'on connaît pas qui peut expliquer ce transfert-là.
C'est sûr.
Il est pas trop tard. Hein? À un moment donné, j'étais à peu près le seul qui comprenait pas comment ça se fait qu'il était entre la Côte d'Ivoire et le Canada parce que c'était impensable qu'il puisse faire la sélection de la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Finalement, compris à temps de venir en sélection canadienne pour son bien, là, être en MLS, c'est une belle carrière pour lui. Il pourrait se développer de façon très intéressante à Montréal ou ailleurs. J'ai hâte de voir cet été qu'est-ce qui va se passer avec lui. Barcelone ne devrait pas le garder parce qu'il y a des contraintes de spots internationaux. Ça fonctionne pas avec Albacete.
Mm-hmm.
J'espère que son entourage va pas scraper.
Mais tu sais, en même temps, il y a peut-être un peu de, il y a peut-être des mauvais souvenirs là. Je sais pas on sait pas dans les détails comment ça s'est fini, mais tu sais, avec sa petite grève.
Elle a essayé de le garder.
C'est vrai, hein. Mais finalement, il n'a jamais été entraîné par Rémi Garde, hein. Je suis pas
d'accord. Non, c'est ça. Il est arrivé. Rémi Garde est arrivé. Il y a eu rapidement l'histoire du transfert. Rémi Garde avait dit qu'il avait discuté un peu avec et il était intéressé à le garder pour puis finalement, un jeune qui veut partir, c'est difficile à l'attacher.
Mais c'est pour ça, je sais pas. On sentait vraiment que même depuis longtemps avant son transfert, il était 100% concentré sur l'Europe. Il a jamais totalement cru, je pense, de rester à long terme avec l'Impact. Je sais pas si déjà là, dans le court laps de temps, il a été en mesure d'avoir la réflexion de se dire, ok, c'est peut-être que ma meilleure chance là, de faire une longue carrière, puis de m'améliorer en fait aussi, là. Parce qu'il est encore à l'étape de sa carrière où il peut s'améliorer puis aller chercher d'autres aspects dans son jeu.
Tu l'imagines sur le banc à l'Impact de Montréal?
Ah, ce serait incroyable, Nathune. Puis peut-être qu'il y a quelque chose comme la Gold Cup cet été. Il va être avec plein de joueurs MLS, dont certains de l'Impact. Peut-être que ça pourrait être utile à essayer de le ramener. On ne sait pas.
Mais il faut pas oublier que vu qu'il a été transféré par une équipe de la MLS, le Montréal a perdu entre guillemets ses joueurs. Là. Donc c'est le fameux système d'allocation. On parle pas d'argent, là, mais c'est vraiment les joueurs qui sont transférés comme ciment. Il y a un ordre selon le classement. Montréal, si jamais, on est dans les purs scénarios Hollywood, si jamais Montréal est intéressé à l'obtenir en prêt, il faut passer par le processus, faire un échange.
Ouais, mais là, Nelton, si on le ramène, il va prendre la place de qui? On a déjà plein de joueurs dans le...
C'est ça! Pourquoi tu veux
le ramener?
Parce qu'il reste des spots à remplir.
Non, définitivement. Puis ça serait... Mais moi, j'ai l'impression qu'il va au moins tenter le coup, par exemple, en France avant. Ou qui moi, me semble, je le vois bien là, en Ligue 1 ou même qu'il commence en Ligue 2. Mais moi, je pense que lui, dans sa tête, il se voit tellement en Europe qu'il va au moins tenter le coup dans une autre ligue avant de revenir en Amérique.
C'est ça?
Ouais, au moins. Selon moi, là. Selon le personnage qu'on a appris à connaître un peu à Montréal, je pense que c'est son style. Puis bon, pendant ce temps-là, on ne sait pas quel joueur Mathieu Chouinard va devenir à MLS, là, en espérant qu'il devienne un titulaire indiscutable d'ici quelques années.
Une petite dernière question, je cherche juste... Oui, c'est Benoît. C'est Benoît Tourangeau qui nous a posé cette question-là. Lors des trois prochains matchs sur la route, qui est contre Kissy, New York City FC et DC United, combien de points pour l'Impact de Montréal? Si je vous offre 2 points, est-ce que vous les prenez tout de suite?
Moi, oui. Honnêtement, oui.
À un point, je dis oui.
Ouais. Ben, je pense que moi, perso, en tout cas, Sporting KC, probablement une des équipes que j'apprécie le plus voir jouer en MLS.
C'est tellement complet, hein, comme équipe. Pas nécessairement des stars, mais un système.
Exact.
Là, il y a une rotation qui se fait super bien. C'est vraiment très beau à voir.
Ouais, puis une espèce, c'est ça, comme tu dis, là, une espèce de bon mix de joueurs, pas tellement connus internationalement, mais qui sont hyper efficaces en MLS. Des jeunes aussi qui montent à tour de bras, là, qui arrivent de l'académie par en dessous. Fait que non, Sporting KC, je pense, ça va être très difficile, encore plus sans Diallo. Après, là, dans la même semaine, de se rendre à New York City au Yankee Stadium, puis
c'est toujours compliqué.
C'est toujours compliqué, puis c'est toujours horrible un peu avec le petit terrain.
Vous allez voir le remplaçant entre guillemets de David Villa,
Mitrita, je pense, le Roumain. Ouais.
Pas trop convaincu comment qu'on prononce son nom. C'est tout un joueur hyper dangereux avec Maxi Morales derrière.
C'est peut-être là où on a
un peu plus de chance.
Exactement. Après, comme on parlait, le petit terrain fait que c'est toujours un peu lancer un dé dans les airs. Il y a peut-être une chance là.
Mais il va faire moins chaud, là.
C'est vrai. On n'aura pas cette excuse-là. Mais après, le DC United, on sait comment ils sont solides à la maison. Fait que je pense pas que s'attendre à aller chercher des points là, soit réaliste. Après, on sait jamais. Sur un match, là, tout peut arriver. Mais donc, oui, moi, je pense que si on me donne 2 points, là, l'Impact revient avec 8 sur une possibilité de quoi? 18, mais à l'étranger. Ce serait plus qu'acceptable.
Ouais, le but, là, c'est psychologiquement, le but, c'est de ne pas être en dessous de la ligne rouge après ce voyage-là. Après, on n'est pas en mode où on court après des positions. C'était ça la plus grosse crainte. C'est on s'en va. On arrive seulement à Montréal le 13 avril. On pourrait potentiellement se retrouver avec 2-3 points maximum, être dans les derniers. Ça fait mal. Je veux pas dans les médias. la première question qu'on va te poser, ouais, l'impact est avant-dernier. Au moins, c'est fini cette conversation-là. Quand on parle de l'impact de Montréal, on parle de résultats positifs, on parle de belles histoires de joueurs, on parle pas de classement où on court après, où c'est les fameux matchs, les matchs clés.
Non, c'est ça. Puis je pense que c'est une bonne chose là, de deux victoires en trois matchs. On a beaucoup parlé de l'espèce d'esprit positif là, qui entourait l'Impact en pré-saison, puis tout le monde avait l'air dans un bon mood. Puis bon, on en a ri un peu, mais c'était quand même quelque chose qui sortait. Ouais, c'est ça. Puis bon,
c'est, là, toi, c'est rendu que je l'accepte, je suis avec toi. Là.
Non, mais je suis d'accord
dans
avec
le fond,
toi.
Le problème, que... c'est Sofiane.
Ouais. S'il nous écoute, là, c'est pas vrai, Sofiane. Hein? C'est pas vrai. Va changer les couches. Là. Non, mais c'est ça. En même temps, c'est toujours un peu... t'sais, on le sait pas vraiment là, c'est à quel point l'Impact va être capable de bien se confronter aux autres équipes de MLS, parce que parfois, ils changent tellement un entre-saison. T'sais, là, par exemple, Orlando, là, leur défense était pratiquement complètement revampée. Puis le gars, Shane O'Neill, j'avais essayé de lire un peu sur lui avant le match. On sait pas, t'sais, il est pas tellement connu en MLS. Il aurait pu être un gars qui arrive puis qui s'impose, alors que là, clairement, il était pas de niveau pour affronter un gars comme Piatti. Fait que c'est toujours difficile à prévoir.
Tout le contraire de Houston, parce que Strona, Piatti... Voilà.
On l'a pas vu du tout.
Ouais, il l'a mis un petit peu dans sa poche. Mais bon, ça arrive des Piatti où il y a des mauvais matchs. Là. Au prochain match, ça sera peut-être l'inverse. Là, mais ouais. Mais Piatti, là, j'en vois des matchs de foot. Là. Sérieusement, Nacho Piatti fait des choses que je vois pas ailleurs. Son but, là, son deuxième but, c'est ce qu'il fait avec ses pieds. Là, c'est, ça a l'air tellement... Peut-être ça a l'air anodin, parce que ça a l'air tellement facile... que c'est spectaculaire, là. Il prend le ballon, c'est des petits contrôles orientés avec un danger automatique. C'est vraiment remarquable d'avoir ce joueur-là à l'Impact de Montréal.
Vraiment.
Quand il va quitter, il va être difficile à remplacer. On en voit des joueurs dans la MLS. Il n'y a pas ce genre de magie-là. Tu sais, des Rooney, c'est pas ça. Ça fait pas ça. Des Jovinko,
c'est pas ça non plus.
Jovinko non plus, c'est une efficacité pure. Lui, c'est ce qu'il fait avec le ballon. C'est, oui, c'est individuel, mais merde, ça vaut la
peine. Non, c'est ça. Puis il y a une espèce de... T'sais, au-delà de la victoire ou la défaite, dans ses gestes, dans ses mouvements avec le ballon, il y a quelque chose de vraiment gracieux.
C'est comme romantique.
Ouais, vraiment. Ouais. On dit que le foot est romantique, puis Nacho Piatti, c'en est la meilleure expression, je pense. Il y a vraiment quelque chose de spécial avec ce gars-là. Puis pour vrai, même si on le répète un peu plus cette année, on va seulement réaliser toute, je pense, son importance et son excellence le jour où il va partir. Là, puis ça va être un hangover difficile à Montréal, je pense.
Bon, un petit dernier sujet. Qu'est-ce que tu as pensé du... c'est le débat. C'est pas vraiment un débat, mais toute la vague de passe vers l'avant de Samuel Piette.
Bon, écoute...
Je vais en faire mon meilleur culpa. Tu sais, c'est peut-être un peu beaucoup à cause de moi.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Samuel Piette, il nous lit sur Twitter. Il lit ce qui se dit sur lui. Puis,
Il n'est pas tout seul. Là.
Non.
Il regarde aussi. Je veux dire,
c'est normal.
On critique souvent l'autre club de Montréal aseptisé, avec les distances, tout ça. Je préfère mille fois... ressentir la proximité avec ce club-là, avec les joueurs. Tu sais, oui, là, il y a des. Ça vient avec des inconvénients, là, tu sais. Mais c'est le fun de voir les joueurs réagir rapidement. Tu sais, tout de suite après le match, il a fait le clin d'œil. Hey, tu me gosses avec tes passes dans la
vente. Ouais, vraiment.
Mais. Tu sais, souvent, il y a le fameux loss in translation, tu sais.
C'est vrai.
Le football moderne avec les numéros 6 à l'ancienne, là, moi je vais prendre ma référence portugaise à l'époque où il y avait Costinha devant la défense portugaise où lui il faisait juste ramasser le ballon. Ça existe de moins en moins. Mm-hmm. Puis l'Impact de Montréal a besoin d'une dimension supplémentaire parce que le milieu de terrain, ben Azira, c'est pas celui qui va faire ça non plus. Puis Taider, souvent, il est pas dans cette position-là. Et
pas assez bas.
Exact. Et souvent, tu sais, ce qu'on dit, je me rappelle d'une conversation qu'on avait eue au Cannes Football Club avec Marc Dos Santos. Il expliquait que le foot, il y avait quatre phases. Tu sais, la fameuse phase attaque, la phase défense. Puis les deux autres, c'était les transitions de défense à attaque et attaque à défense. Piet peut travailler sur ces phases-là parce que très souvent, la transition défense-attaque commence par ses pieds. Puis le premier but, c'est exactement ça qui arrive. Il gagne son duel avec Müller. Tout de suite, les joueurs sont... la structure d'Orlando est défaite. Montréal aussi est déstructuré parce qu'ils viennent d'obtenir un corner côté droit. Mm-hmm. Exceptionnellement, Taider est encore à droite très haut. Okongo était devant le but, donc est encore en double position avec Urruti. Mais dès qu'il gagne le ballon, la première chose qu'il fait, c'est lever la tête et prendre la passe risquée, qui n'est pas nécessairement garantie, là. Tu sais, petit rate la passe, beaucoup de monde va dire « Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as été faire un truc que tu n'es pas capable? » Tu sais, c'est le fun d'avoir des ratios de passe à la fin du match où c'est écrit 60 sur 62. Mais si c'est 50 sur 60, puis là-dedans, tu as trois passes clés, puis tu crées du danger, c'est bien. Mm-hmm. Je comprends qu'il y a des consignes qui sont données dans le match. Je comprends tout ça. Là, c'est normal. Et il faut, comme tu as dit en début de match, il faut que les options existent.
C'est ça.
Un peu plus tard dans le match, on a vu des courses sur les côtés qui apportaient cette solution-là à Piet. Et je vous le dis, ce match-là, il l'a tellement fait plus souvent. Beaucoup plus. Dans le match, il y a eu au moins trois occasions où, dès qu'il fait le pressing et qu'il gagne son duel dans le dernier tiers, tout de suite, il allait vers l'option de course. Oui, il les avait, mais il les a pas gardé le ballon. Puis, c'était plus cette façon-là de dire non, c'est pas une attaque pour dire Piette, tu fais juste l'option facile, tu fais juste envoyer le ballon à gauche et à droite. T'sais, oui, c'est sa mission première. Moi, je veux juste qu'il apporte cette dimension-là supplémentaire parce qu'il en est capable et parce que le club en a besoin.
Non, je pense que tu as bien résumé. Après, c'est ça, je suis assez d'accord avec toi quand Piet lui-même dit là, il faut que j'aille les options. T'sais, c'est ça, c'est pas vrai que c'est juste dans ce match-là où tout d'un coup ces options-là existaient. Je pense que des fois elles existent, mais parce que bon, c'est un bon soldat Piet, puis il respecte les consignes de l'entraîneur, puis bon, il est capitaine aussi jusqu'à un certain point. Donc il veut pas là se lancer dans des longues passes pour se faire intercepter une fois sur deux. Mais je pense que ces passes-là vers l'avant, c'est aussi quelque chose de mental qui, plus il en fait, plus il en réussit.
Oui, la confiance.
C'est ça, il y a une confiance là, qui va rentrer dans sa tête. Puis,
et là, il s'en va jouer contre la Guyane, la confiance de
la Guyane française. Puis, mais tu sais, pour le stage de la Gold Cup, justement, là, s'il est capable de... parce que c'est pas dit là, qu'il va être partant tout le temps, on l'espère, mais il y a Atiba Hutchinson qui devrait peut-être être là. Mais en tout cas, je pense que Piet a beaucoup à apprendre d'un gars comme ça, puis s'ils sont capables de se croiser sur le terrain, ou en tout cas de... T'sais, bref, je pense que Piet de jouer dans des styles plus offensifs avec l'Impact, avec l'équipe canadienne, je pense que ça le sert. Il est encore jeune. Le genre de passe qu'il a fait contre Orlando, on veut tout le voir plus souvent. Si dès le prochain match, il en fait pas une autre exactement comme ça, faudra pas paniquer puis se mettre sur son dos. T'sais, faut y laisser le temps. Mais je pense que ça démontre qu'il y a la possibilité vraiment de que son jeu grandisse puis qu'éventuellement, ben, il soit capable de plus régulièrement faire ce type de passe-là.
Oui, c'est un jeune vétéran, là. C'est pas un gars de 28 ans.
On l'oublie qu'il est tout jeune.
Cette dimension-là, exact. Mm-hmm. Mais il faut pas qu'il soit trop bon. Parce que s'il devient bon défensif et offensivement, ben,
on va le chercher. Ouais, ça sera pas trop long.
Bon, ben, on est pas mal à la fin de l'émission. Tiens, avant de terminer, puisque c'est devenu un classique avec Sofiane puis moi, on parle souvent de consommation culturelle ou d'actualité. Vu que t'es là, es-tu un gros consommateur de Netflix ou de séries télé?
Oui, quand même, j'essaie pas trop souvent, mais j'ai découvert là récemment une nouvelle série télé qui est pas trop dans le genre de ce que Sofiane propose normalement.
Mais y a-tu Samuel L. Jackson?
Non, c'est ça. Il y a pas trop d'explosions. Mais non, ça s'appelle Shameless. C'est un peu notre bougon mais américain. Ça se passe genre dans le South Side de Chicago, dans les quartiers un peu pauvres, là, une famille avec 8 enfants qui font un peu tout et n'importe quoi pour essayer de survivre dans les quartiers pauvres de Chicago, pendant que tous les quartiers s'embourgeoisent un peu. C'est super bon, j'ai dévoré ça, là, j'ai commencé ça récemment, puis il y a quand même 8 saisons sur Netflix, fait que faites-vous plaisir si vous aimez ça.
Ben, si Sophia ne dort pas pendant la nuit,
avec sa petite, là, elle va adorer ça.
Bon, mais c'est parfait. Bon, ben, je pense que ça conclut pas mal ce CCPP édition Sauce Brune. Merci, Julien, d'avoir accepté l'invitation, puis qui sait, hein?
Merci beaucoup, ouais. Non, mais merci d'avoir pensé à moi, puis une petite pensée pour Sofiane aussi, là, ça va être beaucoup de travail actuellement. Je suis sûr qu'il y a hâte de tout vous retrouver sur le CCPP pour un prochain épisode. Mais j'étais content d'être là, puis si jamais il y a d'autres occasions, je vais prendre le relais avec plaisir.
Ah, c'est cool, merci beaucoup, Julien. Merci. Bon, ben, bonne semaine tout le monde.
Salut.
Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.